Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Fabrice.
Olivier Coudron sur Nutri Radio. Quel plaisir de vous avoir. On a quand même de la chance. Je peux vous dire que c'est pas... Si on était une équipe de foot, on serait, indépendamment des résultats du moment, mais on serait sur le papier le Real Madrid. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, dernière émission de l'année. Déjà, ça passe vite, hein, Olivier.
Oui, bah est-ce que c'est le temps qui passe ou est-ce que c'est nous qui passons tranquillement et à notre rythme dans le temps? Ça, c'est un concept de neuronutrition. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour ne pas le perdre.
Ah, bon, c'est bien. Mais vous savez qu'il y a une théorie qui alors je l'ai entendu vaguement, qui dit qu'en ce moment, il y aurait effectivement un phénomène d'accélération du temps. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non, pas particulièrement. Mais ce qui est important quand on parle du temps, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire il y a 15 ans un petit livre sur le temps, c'est que le temps il est comme ça, on est dedans, c'est une dimension du vivant qui s'exprime à travers la chronobiologie, les rythmes, mais surtout il faut vivre l'instant, il faut profiter de l'instant et il faut vivre pleinement notre plein potentiel. Et ça c'est vraiment ce qu'offre la neuronutrition, de se nourrir physiquement, spirituellement, au niveau des oligo-éléments, au niveau de la respiration, de se nourrir par tous les pores de la peau, ici et maintenant, et voilà. Je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà, le temps, c'est une jolie dimension du vivant.
Et vous savez quoi, on pourrait en faire une émission, d'ailleurs, l'année prochaine, peut-être, parler du temps. Je sais pas, je vous lance ça comme ça, hein, si vous n'êtes pas d'accord, parce que je sais que vous êtes quand même assez gentleman et courtois.
Je prends.
mais c'est un vrai, ça peut être un vrai sujet, parce qu'il y en a qui ont aussi qui développent une anxiété à l'idée du temps qui passe, par exemple, ou à l'idée de ne pas avoir assez de temps.
Oui, avec plaisir. En janvier, on se donne rendez-vous, on parlera un petit peu du temps.
Bon, je vous dis ça comme ça, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année, mais c'est pas pour autant qu'on va aborder un sujet léger. Au contraire, on va parler d'un sujet, on parle du TDAH, pour tout vous dire. Et j'ai pas de stats, mais j'ai l'impression quand même que ça se manifeste de plus en plus fréquemment. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce dont il s'agit avant de me dire ce que vous en pensez?
Oui, alors c'est un sujet qu'on va traiter, mais avec plus de légèreté et plus d'optimisme qu'on ne croit finalement, parce qu'il y a plein de solutions utiles et indispensables. Alors le TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Alors le H, ça veut dire hyperactivité, c'est-à-dire que ces personnes, ces enfants, ces garçons, ces filles, ces adultes, plus tard, ont un déficit d'attention. Le problème pour se concentrer, pour fixer l'attention, pour des facultés cognitives, mais peut-être parfois, et pas toujours, associées à de l'hyperactivité. Donc le diagnostic, le repérage, la prise en charge de ces personnes a longtemps été... Je dirais pas mal faite, mais sous-estimée, tout simplement parce qu'on faisait attention, si je puis dire, qu'aux personnes hyperactives. On les appelait d'ailleurs longtemps les syndromes d'hyperactivité, et c'est pas toujours le cas. On peut avoir des jeunes enfants de 7-8 ans à l'école qui sont rêveurs au fond de la classe, ils sont pas du tout hyperactifs, ils bougent pas plus que les autres, mais qui sont en déficit d'attention. Voilà, donc il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, une particularité de fonctionnement qui est considéré comme un trouble, comme une pathologie, mais qui est une particularité du fonctionnement. Et dès lors qu'on l'aborde comme ça, avec plus de positivité, de bienveillance, on peut dire comment on peut tirer le meilleur parti de cette façon de fonctionner au niveau des neurones, du cerveau, et comment on peut éviter à ces personnes d'être dans le versant maladie, c'est-à-dire la souffrance, la perte de fonction, la ségrégation, le handicap finalement, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
Bien, eh bien, écoutez, on va voir ça aujourd'hui grâce à vous, donc ça nous rend tout de suite un peu plus effectivement positif. J'ai pris un petit ton peut-être un peu dramatique, mais vous avez raison de me sortir de là, car il faut que de la good vibe, c'est Nutri Radio. En plus, on a fait des beaux petits jingles de Noël que je vous partage tout de suite et on se retrouve dans un tout petit instant. Le temps pour moi de remercier le partenaire de ces émissions, sans qui on ne serait rien. Le laboratoire Lepivitz, expert en micro nutrition, Clean Label, des produits Clean Label. Donc voilà, allez-y, en veux-tu, en voilà. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Olivier, pour parler de TDAH et puis de cette approche en neuronutrition. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? C'est juste après ceci.
Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Et on parle du TDAH aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé ce petit intermède musical, Olivier ?
Moi, j'adore nourrir son corps de toutes les façons, son esprit. Voilà, tout à fait. Nutrition et par tous les pores de la peau, ça me va. C'est tout à fait dans l'esprit de la neuronutrition.
Alors, le TDAH, on en parle, ce trouble de l'attention, ce trouble déficitaire de l'attention, qui n'est pas une pathologie, on va dire, homogène, puisque tous les patients ne présentent pas les mêmes symptômes, en fait, ni la même intensité avec le même impact.
C'est tout à fait ça. En fait, il y a un fil conducteur qui est le problème d'attention. Donc, l'esprit n'arrive pas à se concentrer, à être attentif. Donc, on a souvent des modifications comportementales qui sont associées, par exemple de l'opposition, de l'agressivité parfois, de l'agitation corporelle ou psychique. Mais le fil conducteur, c'est cette difficulté d'attention, en effet. Donc, on a beaucoup de solutions. Il faut vraiment prendre en charge, c'est accompagner. Je disais, ces enfants, ces adolescents et ces adultes, parce que c'est une façon de fonctionner du cerveau qui va durer toute la vie. Et bien souvent, ils sont un peu laissés pour compte. On n'a pas toujours les bonnes ressources, on ne prête pas suffisamment de bienveillance et d'attention pour une prise en charge globale. Et pourtant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut faire énormément par une nutrition et une neuronutrition adaptée.
Alors, avant de parler de l'approche en neuronutrition, comment on peut être diagnostiqué ? Comment ça se diagnostique, ce TDAH ?
Hélas, c'est parfois compliqué. La formation des professionnels, des éducateurs, des enseignants, des médecins généralistes, etc., de première ligne, n'est pas toujours bien faite. Et en effet, comme je disais, on a encore aujourd'hui tendance à considérer que c'est seulement les gens hyperactifs qui sont à prendre en charge. Donc, on a des questionnaires qui sont validés, qui permettent de cribler un petit peu les différentes questions, de passer un scanner des questions en disant, tiens, est-ce que tu es comme ça ? Est-ce que tu as des problèmes le matin pour te concentrer ? Est-ce que tu arrives à faire tes choix dans tes vêtements, etc. Et avec ces questionnaires très pratiques, qu'on peut télécharger assez facilement hein, sur Internet, on tape TDAH ou ADHD en anglais, on peut arriver à des scores. Et une fois qu'on a évoquer la possibilité d'un TDAH, bah, évidemment, il faut une consultation spécialisée pour accompagner le patient. Et c'est là que la neuronutrition apporte des petits plus.
Alors, on va directement envisager les solutions, mais les approches, les accompagnements, parce que, évidemment, mesdames, messieurs, et ça, on ne le répétera jamais assez, mais Pollux va s'en charger pour moi.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Voilà, ça c'est posé, c'est dit, et on ne le répétera donc jamais assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait en neuronutrition ? Quelle est l'approche ?
Alors l'approche, longtemps, c'était de dire, tiens, c'est un problème de dopamine. On a déjà parlé de la dopamine. Donc c'est vrai qu'au cœur de ce dysfonctionnement, eh bien, on retrouve souvent la dopamine, les récepteurs à la dopamine, la synthèse de la dopamine. Donc l'approche classique, c'est vraiment de travailler sur la dopamine. On a des molécules comme le méthylphénidate, qui est quand même la molécule de référence en pharmacologie, en médecine conventionnelle, et qui améliore cette production et cette efficacité de la dopamine. Mais ce qu'on découvre dans une approche plus, on va dire, transversale, c'est que oui, il y a ce neurotransmetteur, mais il y a aussi d'autres voies. Par exemple, la sérotonine, la mélatonine sont vraiment des pistes importantes. Il y a une autre grande piste qui a été découverte assez récemment, c'est le rôle du microbiote et du dialogue entre le microbiote intestinal et le cerveau dans le TDAH. Le rôle du sommeil également, la qualité et la profondeur du sommeil qui est d'ailleurs associée à la mélatonine. Donc il n'y a pas une seule réponse possible, même si l'approche médicamenteuse peut être très intéressante, je l'ai dit, mais il y a d'autres approches plus globales et holistiques.
Alors, oui, allez-y, excusez-moi, non, je vous en prie, continuez.
Donc, la première chose que je veux dire, c'est que encore plus pour les personnes atteintes de TDAH que pour d'autres, la qualité de l'assiette va être très importante. L'alimentation santé, l'alimentation anti-inflammatoire, d'inspiration méditerranéenne, mais pas seulement. Il faut en plus qu'elle soit adaptée à la chronobiologie. Il faut vraiment revenir à ces bases de chronobiologie, tout simplement parce que la chrononutrition, c'est un modèle alimentaire, c'est une façon de compléter le modèle méditerranéen, mais qui va vraiment travailler et optimiser les neurotransmetteurs. Donc chez ces personnes qui ont des difficultés avec ces fameux neurotransmetteurs, non seulement la dopamine du matin, mais aussi la sérotonine, la mélatonine de la nuit, eh bien cette répartition de la qualité des aliments, du petit déjeuner, du repas de midi, du goûter, du repas du soir, devient alors mais tout à fait déterminante. Je vous assure que dans ma carrière de médecin, j'ai vraiment accompagné beaucoup, beaucoup de personnes TDAH. Et à chaque fois vraiment, j'observais une alimentation qui n'était pas favorable. Alors, il me semble que peut-être ces personnes-là mangent peut-être un petit peu moins bien encore que d'autres, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que donnent certaines études épidémiologiques. Moi, je constatais ça au quotidien. Et dès qu'on commence à changer une assiette qui n'est pas très bonne vers une assiette méditerranéenne et chronobiologique, eh bien, ça va nettement mieux. Et c'est vraiment ce que je constatais. Ça, c'était mon premier constat. Mais il y en a d'autres.
Alors, justement, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio.
Nutri Radio, radio nourrit le corps et l'esprit.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Olivier, on vous a fait un petit habillage spécial Noël sur Nutri Radio. Un peu festif, un petit peu, voilà, on s'est fait plaisir. On a recruté la chorale du Bronx, de Harlem, pour faire tout ça. Est-ce que vous le saviez, monsieur Olivier Coudron?
Mais ça s'entend, c'est magnifique, magnifique.
Bon, on parle du TDAH aujourd'hui, ce trouble déficitaire de l'attention avec une approche en neuronutrition. Vous l'avez dit juste avant la pause, tiens, que bien souvent quand on modifie l'assiette pour aller vers un modèle méditerranéen, il y a des changements assez significatifs. Est-ce que vous parliez aussi de dopamine? Alors après, vous allez pouvoir reprendre peut-être le fil des approches que vous vouliez donner, mais l'importance de la dopamine, est-ce qu'une supplémentation en L-tyrosine, elle peut soutenir la synthèse de dopamine chez ces patients?
La réponse est non. La réponse est non. Ah, je suis sûr que là, je vous ai étonné.
Ah bah oui.
Il y a, en effet. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je reviendrai après sur mon alimentation parce que vraiment, il y a un deuxième élément, une deuxième pièce de puzzle à détailler. Mais pourquoi la tyrosine, finalement, dans les essais cliniques qu'on a pu mener et depuis plus de 20 ans, ne marche pas? Parce que la tyrosine, c'est simplement le précurseur. C'est la matière première à partir de laquelle on va fabriquer la dopamine. Pour peu que l'on ait des enzymes, notamment la tyrosine hydroxylase, des enzymes qui puissent transformer cette matière première en dopamine. Et cette tyrosine hydroxylase, elle a besoin de cofacteurs, c'est-à-dire de petites molécules chimiques qui vont l'aider à fonctionner, comme une clé dans une serrure. Et le cofacteur de cette hydroxylase, c'est le fer, l'atome de fer. Et ça nous amène, entre autres, il y a le fer, le zinc, le magnésium et les folates, les vitamines B9. Et le fer, c'est l'élément limitant. Et on observe que chez les enfants, il y a souvent des déficits en fer, vous savez, hein, chez les enfants, les femmes aussi. Et chez les enfants atteints de TDAH, on a, mais très clairement, des relations linéaires entre le statut en fer, on a un marqueur biologique qui s'appelle la ferritine, hein, qui nous permet de voir un petit peu la réserve de fer. Eh bien, il y a une relation linéaire entre la ferritine et l'intensité des TDAH chez ces enfants. Et lorsqu'on prend ces enfants TDAH, là, c'est des études chez les enfants hein, que je parle, ça s'est fait à Robert Debré, avec Michel Lessandreux et Eric Konofal, il y a déjà plus de 2005, ouais, il y a une vingtaine d'années. Quand on prend ces enfants qui ont le moins de fer dans le sang, qu'on leur donne des compléments alimentaires ou de fer, ou même on peut faire d'autres formes, on peut apprendre des fers médicamenteux, mais peu importe, on leur apporte davantage de fer. On vérifie que la ferritine augmente, qu'on améliore le statut en fer, le stock de fer. Eh bien, on améliore ces fameux questionnaires que j'évoquais tout à l'heure, les scores de Connors, les scores de déficit d'attention. Et c'est mais vraiment constant. Donc pour moi, ça sert à rien de donner de l'acide aminé tyrosine tant qu'on n'a pas modifié le statut en fer. Je dirais même aujourd'hui en fer, en zinc. Hein, on a une très belle corrélation aussi avec l'efficacité du méthylphénidate et le statut en zinc. Professeur Akonzadeh hein, qui a fait ça. Et on a également une relation avec les folates, la vitamine B9, cette fameuse vitamine est tellement, tellement importante dans le cerveau. Vous voyez, c'est pas booster la dopamine avec la tyrosine. Par contre, si on prend un bon petit déjeuner avec ces protéines en chrononutrition et qu'on vérifie, en ce cas-là, avec un professionnel de santé, avec un médecin, on fait une prise de sang, on vérifie qu'il y a un statut en fer qui est correct, optimal, avec bonne valeur, mais bien élevé, hein. C'est pas sortir des zones de carence, c'est vraiment aller vers des valeurs optimales du laboratoire, souvent à 89 grammes. Eh bien, à ce moment-là, on observe vraiment un effet très, très significatif.
Ça, c'est très intéressant. Merci, Olivier Coudron.
Je trouve.
Ouais, oui, non, mais vraiment, vraiment, parce que je m'attendais pas à ce que vous me répondiez ça, justement. Donc là, c'est un point d'importance. Vous vouliez revenir aussi sur l'alimentation?
Oui, parce que, la première étape, et qui marche pour la plupart des personnes, enfants et adultes ou adolescents à TDAH, c'est de manger mieux, parce qu'ils mangent mal. Donc, l'assiette méditerranéenne et chronobiologique, hein, les deux, c'est bien. Et puis, on a une belle méta-analyse, c'était début 2024, fin 2023, début 2024, qui a repris toutes les études cliniques sur les modèles alimentaires dans le TDAH. Et cette grande revue de la littérature a montré que finalement, les régimes d'exclusion ne marchaient pas bien. Régime sans gluten, régime sans lait, sans phosphate. Tout ça, ça marchait pas. Ça marchait pas, c'était plus des croyances que des réalités applicables pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ça peut être pour certains, mais pas pour tout le monde. Par contre, quelque chose de très bluffant, c'est l'importance de l'alimentation personnalisée et adaptée. Et on se rend compte que les personnes qui adoptent un régime en faisant très attention à ce qu'ils tolèrent et qui font vraiment une enquête et qui disent tiens, est-ce que je tolère bien la tomate? Est-ce que je tolère bien le poivron? Est-ce que je tolère bien le lait? Est-ce que je tolère bien les fromages de chèvre, de brebis, de chèvre? Voilà. Quand on fait très attention, on se rend compte que il peut y avoir des profils individuels personnalisés. On a appelé ça les régimes oligo-antigéniques. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on essaie de limiter un petit peu ce qu'on pourrait appeler les antigènes. Je ne sais pas sûr que ce soit une réaction immunitaire, mais ça a été appelé comme ça, peu importe. Quand on exclut, on limite, on modère dans l'alimentation les aliments qui nous semblent moins bien tolérés, et il faut essayer d'être honnête, hein, il faut jouer le jeu, et c'est compliqué, eh bien on améliore. Alors, les chiffres dans les méta-analyses sont de l'ordre de 70% d'amélioration des symptômes cliniques. Donc c'est très significatif. C'est très compliqué, hein, savoir à quoi on est plus ou moins tolérant. Très, très compliqué, mais ça vaut peut-être le coup de faire cette espèce d'enquête pointilleuse, sans être orthorexique, hein, il faut quand même être ouvert à ça. Et puis, alors, ça veut dire aussi une chose, c'est qu'il va falloir peut-être pendant quelques mois ou un an, lever un peu le pied sur certains groupes d'aliments, bien compenser avec d'autres, hein, pour pas être dans le déséquilibre, mais il faut bien noter aussi que c'est pas définitif, hein. La perte de tolérance orale à l'aliment, c'est un état transitoire et que lorsqu'on se remet à bien fonctionner au bout d'un an ou six mois, eh bien on peut repartir vers la tolérance, hein, et la diversité. Donc c'est peut-être un régime transitoire de limiter certains groupes d'aliments, mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de régime tout fait, il n'y a pas de dogme.
Alors, on a bien noté aussi l'importance donc du zinc, du fer, avec évidemment des analyses à faire, hein, chers auditeurs, mais qu'il y a des profils a priori et des carences peut-être en fer qui pourraient expliquer ou qui pourraient être caractéristiques chez les TDAH. Et le magnésium?
Oui, c'est intéressant, ça a été étudié, et là aussi je vais décevoir un petit peu. Alors, il faut du magnésium en tant que besoin nutritionnel, c'est-à-dire qu'il faut quand même notre quantité, notre 6 mg par kilo de poids corporel par jour, donc on va dire pour un enfant entre 200, 300, 350, 380 mg par jour pour un adulte, voilà, il faut ça, il faut manger plus de magnésium, c'est vrai. Pas forcément beaucoup. Et déjà, par l'assiette, c'est bien, ou par un petit peu de complément alimentaire bien toléré par l'intestin, c'est bien. Maintenant, il y a eu des études qui ont cherché à démontrer ou à observer si le fait de prendre plus de magnésium, donc d'avoir plutôt un petit effet fonctionnel, vous voyez, d'apporter un petit peu plus, pouvait modifier des fonctions et notamment améliorer le trouble de l'attention. Et là, c'est plutôt décevant. Alors, Décevant, oui et non, parce que ça améliore l'anxiété. Les troubles anxieux et l'anxiété, qui est une comorbidité du TDAH, hein, qui est un trouble associé, mais ça ne joue que sur l'anxiété, que sur la vulnérabilité au stress, que sur la fatigue, c'est déjà pas mal, mais ça n'améliore pas vraiment le trouble de l'attention. Hein, si on veut travailler sur l'attention, qui est le cœur du problème, la racine du problème, il faudra travailler sur d'autres clés, comme je disais, le fer, le zinc, les vitamines B9, hein, notamment actives, la méthylfolate. Et puis, on n'oubliera pas un élément important du cerveau, hein, qui est un peu la fil rouge là aussi, les oméga-3, les longues chaînes oméga-3.
Ah, ces oméga-3, décidément, on ne peut pas s'en passer. Quel résultat pour terminer cette émission on peut raisonnablement attendre d'une approche nutritionnelle seule chez un enfant ou un adulte? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais quel résultat on peut en attendre?
Si je dis simplement une approche nutritionnelle seule, voilà, on observe ce que peut apporter l'alimentation, une assiette par exemple mieux tolérée, oligo-antigénique, sans même parler des compléments en fer, en zinc, etc., c'est de l'ordre de 60 à 70% d'amélioration. Et moi, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que c'est en général dans les 2 à 3 mois qu'on peut faire le point pour voir si ça marche bien, si c'est suffisant, si ça améliore nettement de façon significative la qualité de vie. Mais comme vous le dites, Fabrice, c'est pas seul, hein. L'assiette, c'est un élément de la prise en charge. Il y a la complémentation micronutritionnelle adaptée, d'une part. Et puis, il y a aussi tout ce travail sur la mélatonine. De plus en plus de médecins prescrivent la mélatonine dans le TDAH avec de grands succès. Ça améliore vraiment le sommeil et la qualité de vie du jour. Et puis, il y a aussi le mode de vie, hein, c'est des troubles neurodéveloppementaux, donc c'est pas que de la maladie, hein, c'est aussi des particularités. Ce sont des personnes qui doivent aussi apprendre à vivre avec ce potentiel particulier. Ils peuvent aussi travailler, il faut apprendre à vivre avec ça, il faut travailler avec des listes, avec une organisation psychologique, avec une méthodologie de vie pour tirer le meilleur profit de son capital cérébral, cognitif, voilà. Donc, c'est pas que l'assiette, hein, ça serait trop simple, mais l'assiette joue un rôle central, vraiment.
Merci beaucoup, docteur Olivier Coudron. On imagine que, et petite parenthèse, mais qu'il ne faut pas les exposer aux écrans, tous les réseaux sociaux avec des vidéos de 2 minutes, 30 secondes, etc. C'est pas forcément conseillé. On est d'accord, Olivier?
On est 100% d'accord. Quand je parle de mélatonine, je dis qu'il faut surtout optimiser ces fameuses lumières le soir, ne pas exposer les enfants et les adultes et les adolescents aux écrans le soir, avoir une qualité de sommeil, se mettre dans les meilleures conditions de sommeil. Et si on doit regarder la lumière, c'est le matin.
Merci Olivier, cette émission, elle sera dispo en podcast à partir de dimanche 18h. Vous pouvez toutes vous les faire pendant cette période de Noël si vous voulez, parce qu'on n'est jamais trop riche d'enseignements et de savoir. C'est par là que ça démarre, donc neuronutrition, hop, vous faites tous les podcasts et on va se retrouver en tout début d'année. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de fin d'année, Olivier?
Tranquille, repos, famille, relations, amour, partage et peut-être un petit peu de travail pour Nutri Radio.
Ah, attention, hein, poussez pas trop loin non plus. Préservez-vous et reposez-vous, revenez-nous en pleine forme. Donc, ce sera la deuxième semaine de janvier. Merci à tous et passez de bonnes fêtes. Évidemment, vous restez sur Nutri Radio. On se quitte comme on n'en peut plus de nos jingles. Donc, on se quitte avec un petit jingle de Noël pour vous, mesdames, messieurs. Et c'est la suite de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Nutri Radio vous souhaite un joyeux Noël. Nutri Radio vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec Nutri Radio. Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.